I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 524 du podcast John Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour la preview de la 7e semaine de la saison NFL 2022. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
Gros programme Victor, aujourd'hui on va parler du meilleur joueur de la NFL. Sujet vaste, polémique, putaclic, un peu tout ça à la fois.
Oui, bah on va en tout cas parler de la position la plus importante en NFL, donc. Par définition, le joueur le plus valuable, si on veut reprendre des termes très NFL.
Tu as bien raison. On va aussi parler d'un choc de division, le hypomètre pour les matchs de la semaine et les meilleures cotes. C'est jeudi, vous avez l'habitude et c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
La problématique est plutôt simple, et tu l'as bien posé, Victor. On fait une draft, tous les joueurs de la NFL sont disponibles. Qui tu choisis en 1?
Aujourd'hui, je choisis Patrick Mahomes.
Ah,
et bah pourtant, voilà, tu sais que
là,
je suis un Josh Allen
sujet.
Boys. Mais oui, je suis un Josh Allen Boy, mais aujourd'hui, je choisis encore Patrick Mahomes.
Alors, pourquoi tu choisis Patrick Mahomes et pas Josh Allen? Parce que, alors déjà, est-ce que le débat, c'est juste eux deux?
Oui. Aujourd'hui, oui. Si on parle de, en plus, comme tu dis, faire un draft, ça veut dire sur des joueurs qui sont pas trop âgés, oui, il y a que deux. Oui.
26 ans pour Allen, 27 pour Mahomes, en effet. Pourquoi Mahomes et pas Josh Allen alors?
Bah déjà parce que sur le papier, il y a un titre, parce que sur le papier, il y a un MVP de Super Bowl, il y a 4 finales de conférence d'affilée, il y a la victoire lors du duel entre les deux hommes en play-off l'année dernière lors d'un match historique. Donc, alors Mahomes, on a vu un peu sa cote baisser à cause du Super Bowl loupé contre les Buccaneers et de la finale de conférence contre les Bengals. Certains ont dit « Ah là là, ça fait deux de chaud, vous l'avez comparé au plus grand ». Enfin, je veux dire, il faut remettre en perspective. Aaron Rodgers, qui est un des plus grands, il a une bague. Peyton Manning, qui est un des plus grands, il a deux bagues, et encore, il y en a une, il la gagne, c'est pas grâce à lui. Donc, Mahomes, il a un début de carrière qui est historique, qui est stratosphérique, qui a jamais été vu. Il est capable de prolonger les jeux d'une manière extraordinaire. Il a fait des statistiques qui sont historiques à tout point de vue. C'est pas pour deux matchs où il a été moyen, dont un où il était abandonné par sa ligne, qu'on va le jeter, entre guillemets, dans les flammes. Je pense qu'aujourd'hui, Josh Allen a gagné le dernier match parce qu'il a une meilleure équipe autour de lui et que les Bills aujourd'hui sont favoris par rapport aux Chiefs s'il y avait un affrontement demain. Mais Mahomes, aujourd'hui, ce qu'il a fait et la manière dont il a repensé la position et la mobilité au poste de quarterback, ça fait encore de lui numéro 1.
C'est intéressant parce qu'ils ont quasiment le même nombre de matchs de saison régulière. 69 pour Mahomes, 67 pour Josh Allen. Ils sont arrivés à une année d'écart, mais Mahomes, ça fait une année blanche. Ils sont à 120 touchdowns et 50 interceptions, pardon, 120-50 pour Josh Allen et 168 touchdowns et 41 interceptions pour Patrick Mahomes, donc qui est clairement au-dessus statistiquement au niveau de la passe. Là où je diffère un petit peu, c'est quand même, tu disais, il a réinventé la mobilité au poste de quarterback. On va dire mobilité dans la poche, parce que pour la mobilité tout court, Josh Allen court plus. Il a quasiment 200 tentatives de plus au sol, 469 contre 259, et il a donc quasiment le double de yards au sol, 2500 contre 1300, et 33 touchdowns au sol pour Josh Allen contre 8 seulement pour Patrick Mahomes. Josh Allen, il y avait un quarterback, un power ranking pardon, des quarterbacks au début de la saison sur le site qui avait été fait par Elliott. Josh Allen était 4e à l'époque et Aaron Rodgers était 1er. Là, on est sur 1 et 2 maintenant, je pense que c'est assez net. Pour moi, je serais tenté de le mettre numéro 1 à l'heure actuelle, alors pas seulement sur la foi du dernier match, mais si on regarde les stats de cette année, il est à 1980 yards, il est numéro 1 NFL là-dessus, il a 17 touchdowns à la passe, il est numéro 1 NFL là-dessus, il a que 4 interceptions, il a 257 yards et 2 touchdowns au sol. Et pour moi, c'est le joueur le plus complet, c'est-à-dire que c'est un monstre physique. Il a un an de moins que Mahomes, il fait 1m96 pour 107 kg, c'est un tank, il peut lancer loin, il peut courir, il peut sauter au-dessus d'un défenseur, on l'a vu la semaine dernière. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il a même encore plus de potentiel. Je ne sais même pas s'il a fini de se peaufiner. Tu vois, il a progressé d'année en année à la fac, il a progressé d'année en année en NFL. Donc, pour moi, il est moins flashy. C'est-à-dire que Mahomes bouge beaucoup dans la poche, il a ses passes, sans regarder, etc. Mais je commence à trouver Josh Allen un poil plus efficace.
Oui, bah, de toute façon, ça c'est sûr que quand tu compares les stats en carrière, on compare un Mahomes qui était déjà au pic en deuxième saison à un joueur qui, tu l'as dit, a progressé vraiment chaque année, année après année, mais ça remonte à l'université. Hein. Enfin, je veux dire, clairement, c'est un joueur, personne n'en voulait en université, il arrive à Wyoming, il progresse année après année, en NFL pareil. Là où tu as raison, c'est que cette dimension physique, elle est presque inédite. C'est-à-dire que pour moi, dans l'ère moderne, on va dire, enfin, en tout cas récente, et encore, tu vas voir que c'est pas si récent, le seul quarterback qui avait cette dimension physique, c'était Roethlisberger en début de carrière, qui était capable d'aller épaule contre un linebacker. C'était un des seuls qui faisait ça, mais Roethlisberger, il n'a jamais eu cette vitesse. On va être clair. Il était aussi puissant qu'Allen, mais il n'avait pas cette vitesse. Donc, c'est vrai qu'Allen, il ressemble à un joueur de jeu vidéo, tu sais. Il court plus vite, il lance plus fort. C'est juste trop bon, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis un Josh Allen boy depuis le début. À la draft, j'avais dit qu'il y aurait deux Hall of Famers dans cette QV. C'était Josh Allen et Josh Rosen. Bon, on va dire que ça fait 50%. Hein.
T'étais déjà dans l'équipe du site en 2018
non.
ou pas
non. non, c'est je ça. Suis parce que je suis arrivé juste après.
On en reparlera à la fin quand je ferai le teaser de l'émission rétro, mais justement, c'est une émission sur la draft 2018. Et il y a du gold hein, sur la draft 2018.
Non, mais Josh Allen, personne n'aurait pu imaginer qu'il monte si haut. Franchement, c'est juste impossible.
Tu parles de l'expérience en playoff. En playoff, il a moins joué. Il a que 6 matchs contre 11 pour Mahomes, mais 14 touchdowns, une interception seulement pour Josh Allen en playoff. Donc,
zéro oui, finale de conférence contre 4.
Ouais, mais alors, tu vois, là, on en vient à qui est le mieux entouré aussi, parce que Josh Allen, l'an dernier, par exemple, ils perdent un match où bah, c'est la défense qui lâche l'égalisation en 13 secondes et où il perd le tirage au sort de la prolongation. Donc, je trouve ça dur de dire, sur l'an dernier, Mahomes est meilleur parce qu'il va au Super Bowl ou
en finale de conférence. Pour moi, Josh Allen était mieux entouré que Mahomes sur ce match-là. Et Mahomes gagne quand même.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Allen n'a rien à se reprocher sur le match, tu vois.
Mais absolument pas. C'est ça qui fait de ce match un match légendaire, c'est que les deux ont évolué à un niveau incroyable.
Après, c'est là où la question est intéressante. Est-ce que Mahomes, enfin, tu vois, si on inverse les rôles, est-ce que Josh Allen serait aussi bon s'il était à Kansas City? Et inversement.
Je pense qu'Andy Reid trouverait toujours une manière d'utiliser de façon optimale son quarterback. Il l'a fait avec des profils très différents, des McNabb, des Vic, des Mahomes. Donc après, McDermott, je ne sais pas. On n'a pas vu sa capacité d'adaptation. Donc je dirais que Allen serait aussi bon à Kansas City. je ne sais pas si Mahomes serait aussi bon à Buffalo.
Tu vois, parce que c'est ça, mine de rien. Je trouve que Allen, il est mieux entouré aujourd'hui d'un point de vue effectif. Il a les meilleurs receveurs, par exemple, même si Travis Kelce, c'est complètement différent au poste de tight end, mais Diggs et...
Gabriel Davis,
c'est très fort, donc il a quand même pas mal de qualité autour de lui. Mais au niveau du coaching, en effet, Mahomes, il est tombé sur un Andy Reid qui est un boss du développement des quarterbacks. Donc il y a ça qui joue. Donc pour moi, ça s'équilibre en fait, les avantages qu'ils ont eu. C'est pas les mêmes avantages, mais ils ont tous les deux eu des avantages. Et encore une fois, moi, la dimension physique de Josh Allen et sa progression constante font que, et même à l'instant T, tu vois, vraiment là à la minute. Si demain on joue, je suis pas sûr que je préfère pas avoir Josh Allen dans mon équipe, quoi.
Bah, je souhaite que t'aies raison, hein. Moi, c'est Josh Allen forever, donc pas de problème avec ça. Mais moi, pour le coup, je prends Mahomes, ouais. Si j'en ai un seul des deux, je prends Mahomes.
Très bien. Rodgers et Brady, passage de témoin, c'est pas les mêmes quarterbacks du tout, surtout en termes de jeu, même si Rodgers commence à être mobile. Mais là, on peut dire aussi qu'on est passé dans une nouvelle époque avec ces deux-là, non ?
Ben oui, on a eu un creux générationnel, hein. Faut pas se mentir, hein. Les Brady, les Manning et les Rodgers, ils ont dominé aussi longtemps parce que il y a eu un creux de presque 10 ans où les deux seuls espoirs ont été Andrew Luck, enterré sous sa ligne, et RG3 qui a été malheureusement enterré par les blessures. Et du coup, là, enfin, avec Allen, avec Mahomes, mais aussi avec Lamar Jackson qui a quand même à sa manière un peu révolutionné l'approche du football. Je suis pas sûr qu'il y ait des Giants et compagnie s'il n'y a pas Lamar il y a 2 ou 3 ans maintenant.
Ouais, il y a Michael Vick quand même aussi avant.
Ouais, mais c'était plus anomalie. Là, j'ai l'impression que ça devient une tendance de fond. Okay. Mais en tout cas, oui, il y a cette génération qui a pris le pouvoir et ça fait du bien, quoi.
Oui, il y a clairement du changement. Josh Allen, Patrick Mahomes, on a dit, se dispute la place de meilleur quarterback de la NFL. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur quand même? Parce qu'il y a des prétendants. On a dit Micah Parsons, Aaron Donald pour les défenseurs la semaine dernière. Il y a Cooper Kupp qui est un joueur exceptionnel à son poste. Mais est-ce que la valeur du poste fait que, quoi qu'il arrive, on est obligé de dire le meilleur quarterback et le meilleur joueur de la NFL?
Oui.
Très bien. Réponse simple, j'aime beaucoup. Donc Patrick Mahomes pour toi. Moi je me mouille, je prends Josh Allen. Je dis que c'est le meilleur joueur de la NFL actuellement. Je vois ton petit sourire en coin.
Je te souhaite d'avoir raison.
Tu te demandes si je fais ça pour le clic ou si je suis sincère, c'est ça ?
Non, même pas. Non, mais moi, j'aimerais que tu aies raison, mais pour le coup, j'attends de voir. Mais j'espère.
Ouais, non, mais je sais pas, je le trouve tellement impressionnant, tellement facile aussi que franchement, ouais, je me dis que s'il progresse encore un petit peu, ça y est, quoi. On y est. Ça me semble.
Non, mais de toute façon, ils sont dans une dimension à part, les deux.
Ouais. Ça, c'est clair. L'avènement est proche. À la limite, tu vois, tu parlais de playoffs, de etc. Si là, les Bills vont au bout, je pense qu'à la fin de l'année, pour moi, enfin, encore une fois, je pense déjà qu'Allen est le meilleur. Ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à un cheveu. Mais oui, je pense que s'il va chercher un titre, on a le patron de la Ligue pour le début de la saison prochaine. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une rivalité incroyable maintenant entre les Chiefs et les Bills de ces deux quarterbacks. Et on espère que ça va durer longtemps. En parlant d'affiches... L'affiche de la semaine, elle oppose les Titans et les Colts. 3 victoires, 2 défaites pour les Titans, 3 victoires, 2 défaites, un nul pour Indianapolis. Les Titans sortent donc d'une semaine de repos. Ils n'ont joué que 5 matchs. La tête de l'AFC Sud est en jeu. Victor, il va falloir que tu assumes le choix de cette affiche puisque c'est toi qui l'as proposé et qui m'a dit « Je m'ambiance pour les affiches de division, il y a un gros enjeu, etc. » Donne-moi une bonne raison de m'enthousiasmer pour ces deux équipes.
Bah parce que le format des playoffs est tel que le vainqueur de division, par définition, va en playoff. Et qu'aujourd'hui, sans vouloir présumer, mais alors gagner ce match, ça veut dire passer devant l'adversaire, ça veut dire prendre le tiebreaker, ça veut dire prendre un avantage psychologique. Et il est possible que quand on revienne sur ce match dans 10 semaines, on se dit « Ouais, il y a une place de playoff qui s'est jouée lors de ce match-là ». Et pour moi, c'est super important parce que c'est deux équipes qui sont en recherche de dynamique. Et là, actuellement, on a deux équipes où on se dit ça peut vraiment le faire. Et donc, je ne sais pas. C'est deux équipes qui sont extrêmement énigmatiques, qui ont des points forts qui ne sont pas utilisés, qui ont des points faibles qui ne sont pas si faibles que ça, qui ont un bilan qui est plus qu'honorable. Donc non, c'est un vrai duel de division comme on les aime et ça ne va pas être facile.
Il est fort. Il est fort parce que moi, j'avoue que quand tu me dis c'est une place de playoff qui se joue, etc. Ouais, c'est la place de playoff de l'équipe qui va se faire désosser au premier tour par les Bills ou les Chiefs.
Bah, on a dit ça des Titans et ils sont allés en finale de conférence.
Ouais, ah ouais, oh tu la joues comme ça.
Mais ouais, on a dit ça des Titans Texans il y a 2 ans. Les Titans vont en finale de conférence et les Texans mènent 24-0 contre les Chiefs. Non, on sait jamais, on sait jamais.
Bon, alors je rappelle quand même les faits parce que les hommes mentent, mais pas les stats. Sur les yards gagnés par action, les Colts sont 26e, les Titans sont 28e. Ils sont dans le dernier tiers sur les points marqués tous les deux. En défense, c'est à peine meilleur. C'est vraiment pour voir comment va se décider cette division parce que. Encore une fois, sur le football, c'est quand même pas deux équipes qui produisent grand-chose de très joli à voir, non, en ce moment.
Ça va mieux, quand même. Je suis d'accord qu'on n'est pas dans le top de la Ligue, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux. Les Colts semblent retrouver un petit peu de vie, même si il y a toujours cette énigme au niveau du jeu de course, hein, puisque on le rappelle quand même que les Colts, qui ont du coup Jonathan Taylor, qui est quand même censé est un des meilleurs coureurs de la Ligue. Les Colts actuellement sont 28e en yards gagnés à la course. Donc c'est assez catastrophique. Donc on a des Colts qui sont à la recherche de leur identité, c'est-à-dire retrouver le jeu de course, c'est-à-dire voir ce que Matt Ryan peut apporter. C'est une défense qui, mine de rien, tient la route. Hein. La défense, on peut dire ce qu'on veut, mais on va dire que s'ils sont aujourd'hui dans un bilan positif, c'est peut-être plus grâce à la défense que à l'attaque. On pense notamment au match des Chiefs. Et d'autre côté, les Titans, bah écoute, les Titans, ils ont eu une saison un peu bizarre où ils jouaient une mi-temps sur deux. Moi, je trouve qu'ils commencent à retrouver un petit peu de rythme. Les stars redeviennent des stars, hein, les Jeffrey Simmons, les Derrick Henry. Ça commence vraiment à tourner. Donc, non, moi, je pense qu'il y a un beau match en perspective.
Encore une fois, j'ai un peu de mal à y croire, mais pourquoi pas les Titans ont gagné 24 à 17 en semaine 4. Pourquoi ça serait différent cette fois? C'est clairement parce que les Colts vont mieux?
C'est parce que déjà, les Colts, je l'ai dit, vont bien en défense et qu'il y a quand même un gros problème au niveau des Titans, c'est que les deux tackles sont nuls. Alors, Daly, il peut rien en soi parce que c'est un remplaçant, mais petit frère, bon, voilà, sa draft pour l'instant n'est pas extraordinaire. Donc, du coup, il y a une possibilité pour les Colts d'annihiler cette attaque des Titans. Mais en même temps, les Titans ont peut-être une attaque plus diversifiée que peuvent l'avoir les Colts qui sont limités par leur groupe de receveurs. Donc, moi, je fais de ce match un sommet défensif. Et je pense que c'est la défense de l'un des deux qui peut faire gagner ce match.
Ah ouais. Donc oui, tu paries sur Jeffrey Simmons et compagnie pour faire basculer. Parce que moi, j'essayais d'aller vers le côté plus spectaculaire, en sens où est-ce qu'on croit en Michael Pittman, Dion Jackson, Paris Campbell et compagnie, qui vont mieux quand même pour les Colts. On a vu les automatismes, on a vu que Matt Ryan a lancé 58 passes sans se faire intercepter. Donc je me dis peut-être qu'elle est là, la différence. Tu vois.
Moi, je pense que ça va être course et défense des deux côtés. Ça va être un old school game... Made in 95.
Au moment où on enregistre, on ne sait pas si Jonathan Taylor joue. Hein.
Oui, mais il y a Naeem Hines, il y a quand même d'autres joueurs. Après, oui, si Jonathan Taylor n'est pas là, les Colts devront ouvrir le plan de jeu. Moi, je fais partie des Colts Raphaël. Hein. Je pense toujours que Matt Ryan est cramé. Ce n'est pas parce qu'il y a un match ennemi correct qu'on va s'enflammer. Et je ne le dis pas avec plaisir, parce que j'aime bien comme joueur de base, mais...
C'est marrant parce que moi, tu vois, je voyais plutôt dans les airs, au sens où les Titans sont aussi l'équipe qui encaisse le plus de yards dans les airs en moyenne cette saison. Ils autorisent une évaluation de 106.3 au quarterback adverse. Donc je me dis, tu vois, si c'est le moment que Matt Ryan poursuive sa renaissance, c'est maintenant, quoi.
Oui, enfin, sauf qu'ils affrontaient pas une équipe de peintres les autres semaines, quoi. Moi, je pense toujours que Pierce, Pittman, etc., c'est ce qu'il y a quasiment de pire dans la ligue. À part les Bears et une ou deux équipes, tu peux pas faire pire, en fait.
Ok. Les Titans qui sont sur 3 victoires de suite, qui sortent d'une semaine de repos, ils ont battu les Raiders, les Colts et les Commanders. Enfin, tu vois, ils affrontaient pas des peintres.
Bah, les Raiders, c'est la meilleure équipe de la Ligue en 1-4.
Enfin, tu vois, te faire allumer dans les airs par Raiders, Colts et Commanders, c'est pas non plus... Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'ils dépendent quand même beaucoup trop de Derrick Henry et de leur défense, et que finalement, les Colts sont pas si loin que ça, quoi. Sur deux de leurs victoires, ils sont à moins de 300 yards au total. Ça tient pas à grand chose. Il y a pas grand chose dans cette équipe. C'est pour ça, honnêtement, que moi, j'avais du mal à m'ambiancer sur cette rencontre. On a des Colts qui reviennent d'entre les morts sur une journée, et les Titans qui gagnent, mais au forceps, quoi, à chaque fois.
Ouais, mais les Titans, ils ont jamais été flamboyants, et pourtant, ils gagnent plus de 10 matchs des deux dernières saisons. Contre les Colts, ces quatre derniers matchs sont serrés et pourtant il les gagne 4. Donc moi je trouve que Vrabel trouve toujours une façon de gagner. Et c'est assez admirable de se dire qu'il aura gagné quasiment plus de 30 matchs en 3 saisons avec Tannehill comme quarterback et pas une équipe All-Star. Non, je le dis tout de suite, je me lance sur le pronostic. Parce que Vrabel, parce que Jeffrey Simmons, je prends les Titans.
Eh bien, écoute, je vais croire à la renaissance des Colts. Allez, parce que vous avez tous mis les Titans. Je vais tenter un petit truc pour gratter un point. Et franchement, les Titans gagnent trop au forceps à l'arrache pour moi pour que j'y croie vraiment. Donc, c'est un match un peu à pile ou face. Ils ont gagné que de 7 points le premier. Bon, on va dire pourquoi pas les Colts. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. And we're gonna work on three! One, two, three, work! Les pronostics de la semaine, ça continue avec le classement qui a bougé un petit peu la semaine dernière. Alors, ça n'a pas été encore une grande semaine. 9 points pour Grégory, 8 pour moi, 7 pour Victor et Raoul, 6 pour Raphaël et 5 pour Lucas. Pouf, on a pris cher, il y avait 14 matchs. Hein, donc, Greg est au-dessus des 50% sur la semaine dernière, mais on n'a pas été exceptionnel. Et du côté du général, ça fait 54 pour Greg, 53 pour moi, 52 pour Victor, 51 pour Raphaël et Raoul, et 47 pour Lucas, et 0 pour ma salive. Excuse-moi, j'étais au bout de ma phrase. Victor, le hypomètre, c'est parti. Dans quel ordre on veut voir les matchs NFL de la saison, de la semaine, pardon. On a donc pris Colts Titans en 1. C'était un peu ton hypomètre à toi, là, parce que je t'ai laissé l'affiche. Donc je vais commencer, tiens. C'est un hypomètre du Nawak, je l'annonce.
Non mais de toute façon, franchement, là, c'est tellement homogène que ton 14 peut être mon 2, il n'y a aucun problème.
Ouais, j'ai pris un peu j'ai essayé de trouver des critères un peu originaux cette semaine, mais je ne savais vraiment pas. Bref, Chargers Seahawks pour commencer.
Je m'en doutais parce que, spoiler, Alain a essayé de nous le vendre comme match de la semaine.
Bah écoute... La question pour les Chargers, c'est est-ce que Justin Herbert va bien ? Mais ils ont gagné 3 matchs de suite, donc pourquoi pas. Et puis la deuxième, c'est Geno Smith, 9 touchdowns, 2 interceptions, 73,4% de passes complétées. Il est leader de la ligue sur le pourcentage de passes complétées, Geno. Et puis bah du coup, ces deux équipes un peu curiosité. Pour moi, le hypomètre, il va commencer à tourner un peu au sens où il y a des équipes qu'on a beaucoup vues pendant les premières semaines parce qu'elles étaient des curiosités de l'intersaison, parce qu'elles étaient, il y avait eu un transfert, parce qu'il y avait eu ceci, cela. Maintenant il y en a d'autres que j'ai moins eu le temps de voir sur les premières semaines que j'ai envie de voir. Chargers Seahawks, ça en fait partie, donc c'est dimanche à 22h25. Je vais pronostiquer les Chargers, même si en effet on peut avoir des petits doutes sur Justin Herbert, etc., mais sur son niveau de forme et de santé, mais je pense qu'ils sont quand même au-dessus en termes d'effectifs de Seattle et que ça fera un bon test. En tout cas, ils doivent se relancer en attaque face à cette défense de Seattle.
Ouais, bah après Seattle, c'était un peu bizarre parce que toute la saison, ils ont vécu sur une attaque de feu et une défense catastrophique. Et le dernier match face aux Cardinals, l'attaque est revenue sur terre, mais la défense a step up. Donc, on ne sait plus sur quel pied danser. Mais c'est sûr que c'est un affrontement qui est intéressant. Ça a tout du match piège pour les Chargers, faut le dire. Oui. Ça a tout du match piège, mais je vais quand même partir avec les Chargers aussi.
Les Chargers pour tout le monde. Ton match suivant.
Bah, tu parlais d'équipes hype de début de saison contre des équipes hype du moment. Bah, là, j'ai un de chaque. J'ai pris Bengals Falcons.
Ouais.
Parce que bah, les Bengals, ils commencent peu à peu à retrouver un vrai rythme en attaque comme en défense, une vraie cohérence. Ils accumulent les victoires, ce qui est quand même pas anodin vu l'accident industriel qu'ils ont évité en début de saison, parce qu'il y a quand même eu des défaites un peu moches. Et les Falcons, bah écoute, c'est fun. Enfin, c'est un peu comme les Giants, si tu veux. C'est sûrement bottom 5 talent de la ligue, mais en attendant, c'est bien coaché, c'est des joueurs qui jouent ensemble, c'est un bon groupe. Ils arrivent à impliquer Pitts enfin. Ils ont un jeu au sol qui est bien installé, une défense courageuse. Donc franchement, là encore, hein, je vais parier les Bengals, mais alors potentiel match piège énorme.
Clairement, et vraiment, c'est comme toi, c'est un match plutôt fun, en fait, sur le papier. Les Falcons sont la troisième équipe au sol, il y a un vrai esprit. Est-ce qu'ils peuvent ralentir Joe Burrow? Bon, ils sont avant-dernier contre la passe, donc statistiquement, non, ils ont seulement 8 sacs, mais ils sont opportunistes, et ça court, donc ça peut être marrant. Je vais parier les Bengals également. Les Commanders contre les Packers, pour moi, derrière. Je vais voir ta tête.
Parce que Heinicke, tu fais partie du fanboy de Heinicke.
Et alors, Taylor Heinicke, puisque Carson Wentz ne sera pas là. Et puis, je me demande à quel moment on va commencer à parier contre les Packers. Tu vois, Washington est sixième sur les sacks avec déjà 19 sacks. Il y a un scénario, tu sais, un peu fou, où ils mettent la pression sur Rodgers, où Rodgers se met à s'engueuler avec Matt LaFleur sur le bord du terrain, où il lui jette Roméo Doux sur la gueule pour se défouler. Et ça pourrait être fun. Je crois pas que ce soit cette semaine où on a ce scénario-là. Les Packers sont sur deux défaites de suite. Il y a un moment où ils vont se reprendre quand même un peu. Ça s'y prête. Mais je sais pas. Il a un potentiel what the fuck, en fait, ce match qui m'intéresse. Donc voilà, ça peut être intéressant.
Oui.
Packers pour moi, du coup.
Non, mais c'est vrai qu'Heinicke, globalement, il a ses qualités et ses défauts, mais c'était des matchs plutôt agréables à regarder hein, quand il était là, parce qu'il a quand même fait un certain nombre de titularisations maintenant, au fil des changements de quarterback à Washington. Après, là, les Packers, j'ai envie de dire, c'est le dernier espoir. Hein, parce que Giants et Jets jouent très bien. Mais quand t'es les Packers, tu peux pas perdre contre Giants, Jets et Commanders, quoi. Et à un moment, Commanders, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Rodgers, il part à la retraite à ce même, quoi. C'est plus possible. Donc, j'ai mis les Packers, mais je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que, franchement, on est arrivé à un point où tu regardes Commanders, Packers, et tu réfléchis deux minutes avant de faire ton prono, parce que c'est pas si évident.
Bah ouais, on est d'accord.
Ouais. Je comprends la hype, pour le coup. C'est voilà. Juste que, bon, après, voilà. Le match, à mon avis, techniquement et visuellement, risque d'être un peu pauvre, mais bon.
Ça, c'est sûr que ça sera pas forcément incroyable. Le match suivant.
Mais écoute, le match suivant, j'ai pris Chiefs-Niners. Enfin, Niners-Chiefs, si on fait la française. Même si, petit astérisque, et ça, les Niners n'y peuvent rien, c'est qu'actuellement, si on prend les joueurs out et fortement blessés, je crois qu'on a 13 titulaires sur 22 qui sont blessés. Ça commence à devenir catastrophique. C'est d'année en année une sorte de récurrence pour cette équipe. Faudrait peut-être se poser la question de la préparation physique à un moment. Mais bon, malgré tout, bah voilà, Kansas City est une des équipes les plus fun et les plus efficaces de cette ligue, même si le bilan de 4-2 est finalement très peu flatteur par rapport à leur niveau. Et les 49ers, sur le papier, c'est top 3 défense de la ligue, et c'est plutôt une équipe qui avance et une équipe qui est plutôt bonne. Donc, en espérant que les 49ers récupèrent le plus de force possible... Ça peut devenir un beau match. Je mise les Chiefs quand même, évidemment. Mais bon, les 49ers, c'est jamais gagné. Même diminué, c'est une équipe qui peut faire du grabuge. Donc ça reste intéressant à voir, même si les blessures nous privent un peu d'un sommet.
Ouais. Bon test défensif pour les Chiefs quand même. Bon, c'est le rematch d'un Super Bowl qui n'est pas si vieux. Hein.
C'est sûr.
C'est dingue. Mais je vois pas comment San Francisco pourrait suivre le rythme, donc je vais quand même donner les Chiefs. Broncos Jets pour moi derrière. Alors, parce que les Jets continuent de gagner. Là, clairement, c'est autant j'ai mis les Broncos haut pendant un moment parce que je voulais voir ce que pouvait faire Russell Wilson. Là, c'est pour voir ce que font les Jets maintenant. Parce qu'ils peuvent faire mal à Denver. Alors, j'avais commencé à préparer avant même qu'on sache que Russell Wilson était incertain à cause de ses douleurs aux ischios. Si en plus, il n'y a pas Russell Wilson... Quinnen Williams et Sauce Gardner, ils risquent de passer un bon moment, quoi. Donc c'est intéressant parce que ça peut faire des Jets à 5-2. Et ça, ce serait quand même aussi très intéressant. Je rappelle que c'est Brett Ripien hein, derrière Russell Wilson.
Oui, bah écoute, cette équipe des Broncos, c'est le syndrome même de sur le papier, c'est bien. Avant le début de la saison, tu vois, sur le papier, c'est bien en attaque, en défense, mais sur le terrain, ça marche pas. Du côté des Jets, ils trouvent vraiment un rythme, une identité de jeu. On le voit de plus en plus d'équipes dont l'identité première, c'est la course. J'ai l'impression qu'il y a quand même une fin de cycle, on y reviendra peut-être à un moment, mais j'ai l'impression quand même que le jeu de course revient un peu plus en grâce alors qu'il a été abandonné pendant quelques années. Il y a une identité, c'est bien coaché, comme notre équipe de New York. Hein, on a potentiellement les deux équipes de New York dans le haut des conférences, c'est quand même assez fou. Moi, je pense que là, ça va être l'enterrement des Broncos. Moi, je le dis tout de suite, je pense que les Jets vont les ravager. Et déjà qu'ils mettent 16 points contre des défenses en mousse, ils vont en mettre combien contre les Jets? Enfin, je pense que ça va être une boucherie. Donc, évidemment, ouais, les Broncos vont gagner, hein, puisque à chaque fois que tu dis ça...
moi, j'allais te dire honnêtement que je pariais sur les... Comment dire? Je pariais sur les Jets, même s'il y a Russell Wilson.
Oui, ah oui, moi aussi.
Donc les Jets pour tout le monde. Ton match suivant.
C'est très homogène. Je vais partir sur Dolphins Steelers. Parce qu'en fait, les Dolphins, c'est quand même pour moi une des plus grandes énigmes de cette saison. Ils gagnent 3 matchs pour débuter. C'est la hype, c'est tout ça. Puis l'affaire Tua, puis Bridgewater, puis la commotion de Bridgewater, puis Skylar Thompson qui revient, qui reste titulaire, même si Bridgewater est de retour, mais il se blesse, donc Bridgewater revient. Enfin, c'est vraiment chaotique, chaotique. Et donc là, il se retrouve à 3-3. Il faut retrouver tout de suite de la dynamique. Le retour de Tua peut aider, parce que, bon, même si c'est pas une stat de quarterback, Tua, il gagne des matchs. Là où on l'a vu, c'est pas le cas quand c'est les autres. Donc, bon, en croisant les doigts pour que physiquement tout aille bien pour lui, hein, parce que là, il nous a fait très peur. Mais bon, bah voilà, retour de Tua face à une équipe des Steelers, bah, qui reprend de la confiance, parce que battre les Buccaneers, c'est quand même pas rien. Hein. On va pas, même si les Buccaneers sont peut-être pas au sommet, ça reste une grosse victoire. Ça sera peut-être Trubisky, ça sera peut-être. Je sais pas si on a des nouvelles de la commotion.
Ah non, ce sera Trubisky, il est sous commotion, donc ils vont pas le remettre dès cette semaine, je pense.
Je sais pas, à une époque, les commotions disparaissaient en 4 jours, mais depuis l'affaire Tua.
Pas en ce moment, je pense pas.
Ouais, depuis l'affaire Tua, ça semble ne pas disparaître. Il y a une vraie possibilité de jeu au sol pour les Steelers. Si Najee Harris veut exploser, c'est aujourd'hui. Donc c'est un match vraiment qui peut partir dans tous les sens. Et pour ma part, j'hésite. Je vais prendre les Dolphins quand même. Mais ah, vous avez tous mis les Dolphins. Ah bah ouais. Je vais prendre les Steelers alors. Tiens.
Ah bah faites-toi plaisir. Je vais prendre les Dolphins.
Stratégique.
Retour de Tua Tagovailoa. Il y a toujours quand même pas grand-chose en attaque du côté de Pittsburgh. Jaguars-Giants pour moi, les Giants sont à 5-1 avec l'avant-dernière attaque aérienne de la Ligue et la quatrième attaque au sol, donc là il y a une tendance hein, encore, tu parlais d'attaque qui vise le sol. Ils sont top 10 sur les points encaissés, donc ils ont une bonne défense, un gros jeu au sol. On a dit que les Jaguars dans l'émission débrief n'étaient pas si loin que ça, ils misent aussi sur du gros jeu au sol pour mieux entourer Trevor Lawrence, donc il y a un monde où les Jaguars peuvent gagner ce match, c'est celui où c'est le plus partagé hein, d'ailleurs dans les pronostics de la rédaction. Lucas et Raoul partent sur les Jaguars. Après, les Giants trouvent toujours un moyen de gagner. Ils sont plus sérieux, ils sont plus solides. Donc, je vais partir là-dessus, Giants pour moi.
Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que toutes les semaines, on se dit « Ah, oh, à un moment, les Giants, ils vont redescendre sur Terre. » Sauf que bah, ça fait 5 semaines sur 6 qu'ils ne redescendent pas sur Terre et qu'ils trouvent toujours un moyen de gagner. Un peu à l'image des Eagles. C'est-à-dire, peu importe le scénario, ils trouvent un moyen de gagner. Et je pense que là, aujourd'hui, les Jaguars, eux, sont redescendus sur Terre. Et je pense pas que la hype Giants s'arrête là, donc Giants pour moi. Ouais.
Le match suivant,
là encore, je vais prendre Ravens-Browns.
Beaucoup de rivalités de division cette semaine.
Oui, et puis quand même, qu'est-ce qu'il faut penser de ces Ravens en fait? Flamboyant par moment, catastrophique pour garder une avance au score, hein, ça, cette année c'est une constance. Une défense fébrile comme on en a quand même rarement vu à Baltimore et un Lamar Jackson dont il y a des semaines on se dit oh là là il veut son contrat, il est incroyable, on l'a jamais vu comme ça, et des semaines où il paraît très humain. Donc, sans faire offense aux Browns, moi, c'est avant tout les Ravens que je veux voir dans ce match. C'est parce que les Browns, on sait ce qu'on a. Enfin, on a une équipe qui va jouer avec ses forces, sa défense, son jeu de course, et voilà. Ok.
Ouais, si tant est que la défense soit vraiment une force en ce moment. Mais...
Non, oui, qui va tenter d'exploiter des potentielles ouais. forces. Mais en tout cas, moi, je veux surtout voir les Ravens pour essayer de savoir est-ce que vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'on a, quoi ? Est-ce qu'on a une équipe en plein doute ou est-ce qu'on a une équipe qui va se reprendre ? Pour l'instant, dans la division, ils s'en sortent, donc il va falloir continuer. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a avec les Ravens ? C'est ma vraie question.
La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'en théorie, s'ils mènent cette fois, c'est plus dur de remonter quand tu as Jacoby Brissett comme quarterback. S'ils se font remonter là, ouf, ce serait compliqué. Je vais aller sur les Ravens quand même. La défense des Browns est décevante. Ils prennent 27 points par match. Il n'y a que les Lions qui font pire. Ils prennent 27,2 par match, les Browns, cette année. C'est pour ça que je vais aller sur les Ravens. Cowboys-Lions pour moi derrière, avec le retour de Dak Prescott quand même, probablement, parce que ça fait une ou deux semaines qu'on nous le vend et qu'à chaque fois, ça a repoussé, mais... probablement, vrai choc de style, les Lions marquaient énormément de points au début de la saison, ils ont été mis à zéro par les Patriots. On se dit que la défense de Dallas peut faire aussi le nécessaire, a priori. Donc moi, je vais aller sur les Cowboys, au sens où je pense que quand même Détroit va être un peu ralenti et que Dallas sort d'une défaite et va faire ce qu'il faut pour corriger ça.
Oui, après, Dallas sort pas d'une défaite infamante. Hein. Ils ont toujours leur même force. Là, pour le coup, la défense qui est quand même une vraie force. Je pense en effet que le retour de Dak Prescott va faire du bien. J'aime beaucoup les Lions, mais le match contre les Patriots a montré le chemin qui reste encore à parcourir. Donc oui, je pense que les Cowboys, c'est un choix assez safe.
Le match suivant.
Je vais prendre Cardinals-Saints, donc qui est le match du jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Tu me corriges hein, si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est le match jeudi. Écoute, entre deux équipes... Oui. Alors, les Cardinals sont en plein doute. Les Cardinals sont certainement l'équipe la moins bien coachée de cette ligue, alors qu'il y a du talent hein, sur le papier. Et de l'autre côté, les Saints, bon an, mal an, ils ont plus ou moins enterré le projet de Jameis Winston et remplacé par Andy Dalton, qui est moins flamboyant, mais qui reste solide. Voilà, des Saints, ils ont retrouvé une sorte d'équilibre, même s'il y a quand même des joueurs clés qui restent blessés. Michael Thomas, on commence à perdre espoir hein, à force là ces dernières années. La défense qui sous-performe toujours un peu. Donc, soit c'est le réveil des Cardinals, soit c'est définitivement fini pour eux. Ça va être un vrai gros match. Donc, là, pour le coup, il y a un vrai enjeu. En y réfléchissant, je vais changer mon pronostic. Je vais mettre Saints quand même, parce que j'ai l'impression que tout va mal à Arizona et j'ai du mal à imaginer le réveil. Même, si
même pas le petit coup de fouet d'André Hopkins, Robbie Anderson, quoi.
Robbie Anderson, non. D'André Hopkins, certes. Mais je sais pas, est-ce que je fais suffisamment confiance à cette équipe ? Je suis en plein doute.
Sous-côté quand il est heureux, Robbie Anderson.
C'est vrai qu'il y a le retour de Hopkins, hein, tu as raison.
Ah bah oui, quand même. Non, Cardinals pour moi.
Ouais, allez, Cardinals, pardon. Je change deux fois de suite, mais allez. Je vais sûrement le regretter, mais allez, Cardinals.
Il nous reste du haut niveau. Panthers-Buccaneers pour moi. Mm-hmm. Les Buccaneers ont perdu contre les Steelers. Donc il faut bon là je sais qu'il faut jamais rien exclure cette année mais là ce serait la surprise de l'année. Les Panthers ont même plus de pass rush, il y a seulement 9 sacks en 6 matchs. Bon voilà, là vraiment le seul intérêt pour moi c'est de regarder Tom Brady dans quel état est cette attaque, c'est un prétendant au titre, donc voir comment ils peuvent se remettre sur les rails. Donc Buccaneers pour moi.
Ouais, c'est toujours malheureux d'enterrer une équipe après 6 semaines mais on voit pas le bout du tunnel hein, pour Carolina, on va pas se mentir. Donc là, ça va être répéter les gammes pour les Buccaneers, essayer d'être enfin efficace en red zone, de convertir des touchdowns et pas des field goals, de retrouver un petit rythme. Oui, ça va être... Il y a tout à perdre pour les Buccaneers, ça c'est sûr.
Bah là, oui, clairement, ce serait une catastrophe.
Alors pour ma part, je vais prendre Patriots-Bears.
Il en restait plus que deux, ouais, c'était...
Oui. Parce que les Patriots, ça marche bien. Bailey Zappé est comme prévu le meilleur quarterback de cette équipe. Bon, je troll évidemment un peu. Hein. Je pense que quand Mac Jones revient, Il a largement mérité, vu sa saison dernière, de redevenir titulaire. Mais voilà, on retrouve un peu les Patriots de Belichick ces deux dernières semaines. C'est-à-dire, c'est clinique. Ça exécute bien, ça fait pas d'erreurs, ça attend que l'équipe en face fasse des erreurs. Et le truc, c'est que les Bears, ils en font un paquet. Donc, c'est le genre de match où là, pour le coup, je signe des deux mains sur les Patriots parce que c'est le genre de match que Bilou laisse pas passer, quoi.
Oui, et puis les Bears, c'est 15 points et demi par match, 122 yards dans les airs. Enfin, je pense pas qu'ils fassent des insomnies non plus, Belichick, pour ce qu'il y a en face. Donc voilà, c'est toujours la même chose avec les Bears. Hein. Ils essaient de courir, ils s'adaptent pas. On est toujours dans l'énigme Justin Fields. A priori, il y a quand même un vrai problème de coaching qui s'adapte pas à ce qu'il sait faire de toute façon. Donc voilà, je pense pas en effet que Bill Belichick ait du mal à dormir là-dessus. Ce sera les Patriots pour moi aussi. On termine donc avec Raiders Texans. Les deux équipes étaient au repos la semaine dernière. Les Raiders sortent d'une défaite d'un petit point contre les Chiefs, donc ils semblent tout de même avoir le dessus. Rien que sur le talent, je pense qu'ils sont à des années-lumière devant. Je vais aller sur les Raiders.
Oui, moi aussi. Bah, de toute façon, je veux dire, il y a des équipes qui sont meilleures ou moins bonnes que leur bilan. Clairement, ils sont meilleurs que leur bilan. Enfin, c'est pas une équipe de 1-4. C'est une équipe qui a beaucoup plus de talent que ça. Donc là, vraiment, c'est le match où tu relances la machine et t'espères que ça va s'enchaîner derrière. Parce que si tu perds les Texans, bon là, c'est fini. Merci, au revoir. Donc, je pense que les Riders vont faire le travail quand même.
Les Bills, les Rams, les Vikings et les Eagles sont au repos. C'est pour ça aussi hein, qu'on n'a pas. Il y a quelques affiches qui sont un petit peu.
Il y a des grosses équipes au repos, oui.
Je vous rappelle le calendrier et l'ordre de ces matchs, puisque là on vous les a donnés par ordre de préférence à regarder. Le calendrier, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, Cardinals Saints à 2h20 du matin. Dimanche à 19h, ce sera Ravens Browns, Panthers Buccaneers, Bengals Falcons, Cowboys Lions, Jaguars Giants, Titans Colts, Packers Commanders. À 22h, 4 matchs. Broncos Jets, Raiders Texans, Chargers Seahawks, 49ers Chiefs. Le Sunday Night Football, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, Dolphins Steelers. Et le Monday Night Football, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, Patriots Bears. On va pas se mentir, les deux prime time, ils sont pas. Ce sera pas les sommets de spectacle, quoi. Hein. Dolphins Steelers et Patriots Bears.
Il y a un potentiel Dolphins Steelers, moi j'y crois.
Ah ouais, tu veux faire le résumé du coup, c'est ça que tu veux dire?
Je suis en bye week, monsieur.
Ah bah voilà, bah voilà, tiens, comme par hasard. Ah tout de suite, ça fait moins le malin.
Je t'ai fait Sunday Night la semaine dernière.
C'est vrai, et je t'en remercie. Les cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire unibet.fr. Victor, est-ce que tu as vu des cotes qui t'intéressent ?
Beaucoup cette semaine, pour le coup.
Beaucoup de matchs incertains, donc en effet.
Et je vais dire New York, parce que New York Giants à 2,19 contre les Jaguars.
Ah yes.
Alors que les Jaguars sont à 1,55. Bon, ça c'est quand même. Voilà. Les Jets à 1,94 contre les Broncos. J'aime beaucoup aussi.
On prend aussi.
Et j'en avais un qui était un petit peu plus polémique, mais on parlait du Saints Cardinals. Bah, les Saints sont à 2-0.
Oui, mais c'est le jeudi, c'est trop tôt.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu...
Ah, je veux des cotes qui durent pour nos auditeurs qui écoutent l'émission le vendredi ou le samedi.
J'avais oublié que tu ostracises le match du jeudi. C'était déjà New York, ça c'était les premiers. Et puis...
Les Colts sont à 2,09. Moi, j'ai misé sur eux, donc voilà. Mais c'est un match très incertain quand même.
Ouais, mais après, oui, les Colts sont à 2,09, donc pourquoi pas. Les Commanders sont à 2,70, si t'y crois vraiment. Mais là, on passe peut-être dans la partie YOLO.
On va le mettre dans le YOLO, ouais. J'allais te dire. Je vais prendre les Colts, moi, à 2,09. Allez, pour aller au bout de mes rêves, au bout de ma logique de la semaine. En tout cas, donc les trois cotes, ça fait Jets à 1,94, Giants à 2,19, Colts à 2,09. Là, il y a moyen de faire un truc vraiment lourd avec le YOLO. Le YOLO, tu m'as dit quoi alors? C'était lesquels que tu m'as dit? Les Seahawks? Non.
Les Steelers à 3,32 contre les Dolphins. 3,32. Moi, je trouve ça incroyable.
T'y crois?
Ah oui, j'y crois. Bah, je les ai pronostiqués.
Ok, 3,32. 3,32, alors, les Lions sont à 3,22, mais moi... Les Falcons à
2,85. Oui.
Why not, hein.
Oui.
Ils peuvent créer la surprise.
Bien sûr.
Et puis, les Commanders à 2,70, t'avais dit alors? Puisque c'est YOLO.
Ouais.
Allez, YOLO. YOLO pour les Jets à 1,94, les Giants à 2,19, les Colts à 2,09. Ça, c'était les trois premiers. Et on rajoute Steelers à 3,32 contre les Dolphins, les Falcons à 2,85 contre les Bengals et les Commanders à 2,70 contre Green Bay. Vu que tout est à peu près possible cette année en NFL, ça fait 5 euros misés, 1218,14 euros de gains potentiels. On rappelle, les YOLO, c'est plutôt 1 euro, ça ferait 243,78 euros de gains potentiels. On vous rappelle évidemment de jouer avec prudence, de vous fixer des limites. Vous pouvez créditer votre compte, hein, donc fixez-vous une limite annuelle ou hebdo ou quelque chose comme ça, mais n'oubliez pas de vous fixer des limites. Si vous sentez en difficulté, 09 74 75 13 13, c'est évidemment le numéro pour recevoir des conseils et du soutien si vous sentez que vous perdez le contrôle. Merci beaucoup, Victor.
Merci Alain, merci à tous.
C'est comme ça qu'on termine l'épisode 524 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter, de nous soutenir sur Tipeee. Il y a des nouvelles contreparties, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez aussi laisser des évaluations sur les applis de podcast, ça nous aide également. Vous avez l'habitude pour les réseaux sociaux, pour le site CTD Actu. Et on se retrouve donc demain pour le podcast Draft, c'est Victor et Jean-Michel. J'ai vu que ça parlait du successeur de Tom Brady à Tampa.
Et du nouveau Jalen Hurts.
Et du nouveau Jalen Hurts. Alors ça, si c'est pas du teasing de qualité. Et en parlant de teasing également, samedi, émission rétro mise en ligne, le top 10 de la draft 2018. Et alors, je vous jure, je l'ai réécouté ce matin, c'est rempli de pépites. Greg et Grégory Richard et Kevin Zarmaten font un métier hyper difficile. On leur fait une grosse bise parce qu'ils sont obligés de se mouiller sur des mecs qui n'ont jamais foutu un pied en NFL, quand même, factuellement. Et donc, bah ouais, ça donne des perles. Et donc, ce top 10 de la draft 2018, on parle de Baker Mayfield, on parle de...
Sam Darnold.
Dans l'ordre, Sam Darnold, Josh Allen et Josh Rosen, qui sont tous les quatre choisis dans le top 10 cette année-là. Il y a des comparaisons NFL incroyables quand on parle de ces joueurs-là à ce moment-là. Et en effet, on va dire que tout ne s'est pas réalisé comme prévu au moment de la draft, en tout cas ce qu'on pensait. C'est fou, c'était il n'y a que 4 ans et demi, et quand je le réécoute, j'ai l'impression que c'était, mais il y a une éternité. Donc je vous invite à aller écouter cette émission. Je me permets une autre petite promo, et celle-là elle est auto, mais il y a le dernier épisode d'Occupation, Occupation au pluriel, recherché sur les plateformes de podcast. C'est mon podcast personnel. Je suis allé à la rencontre d'un employé des pompes funèbres cette fois-ci, et c'est très intéressant, et ça fait tomber pas mal de clichés, donc je vous invite à aller y jeter une oreille si vous avez le temps. Merci encore, Victor.
Eh bien, merci à toi.
On se retrouve donc très vite sur tdactu.com et sur toutes nos émissions. Le fauteuil dimanche aussi, évidemment. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.